Tout au fond d'une cour, elles habitaient un modeste petit logis, la mère, la fille et une parente maternelle déjà bien âgée, leur tante et grand-tante, qu'elles venaient de recueillir dans l'éphémère fraîcheur de ses 18 ans, lorsqu'elles avaient dû, après les revers de fortune, s'enfermer dans le hall, le reste de la chère demeure, tout le côté vivant qui regardait la rue, il avait fallu le louer à des étrangers profanateurs des anciennes choses et y détruisait les souvenirs. Une vente judiciaire les avait dépouillés des meubles plus luxueux d'autrefois et elles avaient arrangé leur nouveau petit salon de recluse avec des objets un peu disparates, des greniers, des réserves de la maison. Mais tout de suite, elle avait aimé ce petit salon si humble qui devait maintenant, pendant des années, les réunir toutes les trois auprès du même feu et de la même lampe aux veillées de hiver. On s'y trouvait bien. Il y avait un air familial et intime. On s'y sentait un peu cloîtré, il est vrai, mais sans tristesse, car les fenêtres garnies de simples rideaux de mousseline donnaient sur la cour ensoleillée, dont les murs, très bas, étaient gardis de chèvrefeuilles et de roses. Et déjà, elles oubliaient le confort, le luxe d'autrefois, heureuses de leur salon modeste, quand un jour, par une communication, leur fut faite, qui les laissa dans la consternation morne. Le voisin allait élever de deux étages son logis. Un mur allait monter là, devant leur fenêtre. L'air cachait le soleil. Et aucun moyen, hélas, de conjurer ce malheur, plus intimement cruel à leurs âmes que toutes les précédentes. Il fallait, à mesure que montait cette chose obscurcissante, en un mois, les maçons eurent achevé leur œuvre. C'était une surface lisse en pierre de taille, qui fut peinte ensuite d'un blanc grisâtre, simulant presque un ciel crépusculaire de novembre perpétuellement opaque, invariable et mort. Et aux étés suivants, les rosiers, les arbustes de la cour reverdirent, plus étiolés à son ombre. Dans le salon, les chauds soleils de juin et de juillet pénétrait encore, mais plus tardif, le matin, plus vite enfui, le soir. Les crépuscules d'arrière-saison tombaient une heure plus tôt, amenant tout de suite les pénétrantes tristesses et le temps, les mois, les saisons coulèrent. Entre chien et loup, aux heures indécises des soirs, quand les trois femmes quittaient l'une après l'autre leur ouvrage de broderie ou de couture, avant d'aller allumer la lampe de la veillée, la jeune fille, qui bientôt ne serait plus jeune, levant toujours les yeux vers ce mur dressé là, au lieu de son ciel de jadis, souvent même par une sorte de mélancolie enfantillage qui constamment lui revenait comme une manie de prisonnière, elle s'amusait à regarder d'une certaine place les branches de rosiers, La tête des arbustes se détachait sur ce fond grisâtre de pierre peinte et cherchait à se donner l'illusion que ce fond-là était un ciel plus bas et plus proche que le vrai. Non, le genre de ce que la nuit pèse sur les visions abandonnées de former des songes. Elle savait en espérance un héritage, ce dont elle parlait souvent autour de leurs lampes et de leurs tables de travail, comme d'un rêve, comme d'un conte de fées, tant il semblait lointain. Mais quand on la tiendrait, cette succession d'Amérique, à n'importe quel prix, on achèterait la maison du voisin pour démolir toute la partie nouvelle, rétablir les choses comme par le passé et rendre à leur cours, rendre aux chers rosiers des murailles le soleil d'autrefois, le jeter bas, ce mur, était devenu le seul devoir terrestre, leur continuelle obsession. Et la vieille tante avait coutume alors de leur dire « Mes chères filles, Dieu permette que je vois vive assez longtemps, moi, pour voir ce beau jour. » Il fallait bien, il tardait bien à venir cet héritage. Les pluies à la longue avaient tracé sur la surface lisse une sorte de zébrure noirâtre, triste, triste à voir, formant comme un V ou comme la silhouette trouble d'un oiseau qui plane. Et la jeune fille contemplait cela longuement, tous les jours, tous les jours. Une fois, un printemps plus chaud, qui malgré l'ombre du mur avait fait les roses plus hâtives que de coutume, plus épanouies, un jeune homme parut dans ce fond de cour, prit place pendant quelques soirs à la table des trois dames sans fortune. De passage dans la ville, il avait été recommandé par des amis communs, non sans arrière-pensée de mariage. Il était beau, avec un visage fier, bruni par les grands souffles marins. Mais il le jugea trop chimérique, l'héritage. Il la trouva trop pauvre, la jeune fille, dont le teint commençait d'ailleurs à beaucoup pâlir, faute de lumière. Donc il repartit sans retour, lui qui avait là, pour un temps, représenté le soleil, la force et la vie, et celle qui déjà s'était crue sa fiancée était de ce départ reçue un muet, intime sentiment de mort. Et les années monotones continuèrent leur marche comme les impassibles fleuves. Il s'en passa 5. Il en passa 10, 15 et même 20. La fraîcheur de la jeune fille, sans dot, peu à peu acheva de s'en aller, inutile et dédaignée. La mère prit des cheveux blancs. La vieille tante devint infirme, branlant la tête, octogénaire dans un fauteuil fané, éternellement assise à la même place, pas de la fenêtre, obscurcie, son profil vénérable se découpant sur les feuillages de la cour, au-dessous de ce fond de muraille uni où s'acculait, s'accentuait la marbrure noirâtre en forme d'oiseau tracée par les lentes gouttières. Et en présence du mur, de l'inexorable mur, elles vieillirent toutes les trois. Et les rosiers et les arbustes vieillirent aussi, de leur moins sinistre vieillesse de plantes, avec encore des airs de rajeunissement à chaque renouveau. « Oh, mes filles, mes pauvres filles !» disait toujours la tante de sa voix cassée qui ne finissait plus les phrases. « Pourvu que je vive assez longtemps, moi !» Et sa main osseuse, avec un geste de menace, désignait l'oppressante chose de pierre. Elle était morte depuis une dizaine de mois, laissant un vide affreux dans le petit salon des recluses, et on avait pleuré comme la plus chère des grands-mères, quand l'héritage arriva enfin, très bouleversant, un jour où on ne la n'y pensait plus. La vieille fille, 40 ans sonnée maintenant, se retrouva toute jeune, dans sa joie d'entrer en possession de la fortune revenue. On chasserait le locataire, bien entendu, et on se réinstallerait comme avant, mais de préférence, on se retraînerait à l'ordinaire dans le petit salon des temps de médiocrité. D'abord, il était maintenant rempli de souvenirs, et puis d'ailleurs, il redeviendrait d'une gaieté ensoleillée dès qu'on aurait abattu ce grand mur empoisonnant, qui n'était plus aujourd'hui qu'un vain épouvantail, si facile à détruire à coups de louis d'or. Elle eut enfin lieu, cette chute du mur, désirée depuis 20 mornes années. Elle eut lieu en avril, au moment des premières souffles bleus, tièdes des premières soirées longues. Très vite, cela s'accomplit au milieu d'un tapage de pierre qui tombait, d'ouvriers qui chantaient dans un nuage de flatras et de vieilles poussières. Et au déclin de la seconde journée, quand ce fut terminé, les ouvriers partis, le silence revenu, elles se retrouvèrent assises à leur table, la terre mère et la fille, étonnées d'y voir si clair, n'avoir plus besoin de lampe pour commencer le repas du soir. Comme un étrange retour des temps antérieurs, elles regardaient les rosiers de leur cour s'étaler à nouveau sur le ciel. Mais au lieu de la joie qu'elles en avaient attendue, c'était d'abord une indéfinissable malaise. Trop de lumière, tout à coup, dans leur petit salon. Une sorte de resplendissement triste. Et la notion d'un vide inusité au dehors d'un immense changement. Il ne revenait point de parole en présence de l'accomplissement de leurs rêves, absorbées l'une et l'autre, prises d'une croissante mélancolie, elles restaient là, sans causer, sans toucher au repas du soir servi. Et peu à peu, leurs deux cœurs se serraient davantage, se levaient comme de la détresse, comme l'un de ces regrets noirs et ces espérances sans espérance que nous laissent les morts. Quand la mère enfin s'aperçut que les yeux de sa fille commençaient à s'embrumer de pleurs, devinant les pensées inexprimées qui devaient si bien rassembler les siennes, « On pourrait rebâtir, dit-elle. Il me semble qu'on pourrait essayer, n'est-ce pas, de le refaire pareil. »« Bien, j'y songeais moi aussi, répondit la fille. « Mais non, vois-tu, ce serait plus le même. »« Bon Dieu, comment cela se pouvait-il ? C'était elle, c'était bien elle qui l'avait décrété, l'anéantissement de ce fond de tableau familier, au-dessous duquel, pendant des printemps, elle avait vu se détacher certains beaux visages de jeunes hommes, et pendant de si nombreux hivers, un profil vénéré de vieille tante morte. Et tout à coup, au souvenir de ce vague dessin en forme d'ombre d'oiseau tracé là par les patientes gouttières, et qu'elle ne verrait plus jamais, jamais. Son cœur fut déchiré soudainement d'une manière plus affreuse. Elle pleura les larmes les plus sombres de sa vie devant l'irréparable destruction de ce mur.